Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ en ce mercredi 25 mars 2026, il est 8h.
La matinale info, Laurence Goldman.
Au programme de cette édition, l'actualité en Israël avec la guerre qui se poursuit sur deux fronts avec la République islamique d'Iran et avec le Hezbollah au sud Liban. La population israélienne vit maintenant depuis plus de 3 semaines sous le feu des tirs de missiles et de roquettes. Une femme a été tuée hier soir dans le nord du pays par des tirs en provenance du Liban. 9 personnes ont été blessées à Bnei Brak, près de Tel Aviv. Nous en parlons dans un instant avec l'un de nos correspondants sur place, Julien Baloul, qui se trouve à Tel Aviv. Nous resterons en Israël pour la seconde partie de cette édition. L'invitée de cette matinale sera la franco-israélienne Yael Ifra, ancienne conseillère parlementaire à la Knesset. Elle est spécialiste des questions économiques. Depuis Jérusalem, elle nous racontera le quotidien des Israéliens qui vivent nuit et jour au rythme des alertes aux missiles et aux roquettes. Mais tout de suite, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité.
Le journal.
Pas de répit pour les habitants d'Israël depuis le début de l'opération militaire israélo-américaine contre la République islamique d'Iran le 28 février dernier. Ces dernières heures, plusieurs alertes aux missiles ont eu lieu du nord au sud à travers tout le pays. Hier, en début de soirée, une jeune femme de 27 ans a été tuée lors d'un barrage de 38 roquettes tirées depuis le Liban par le Hezbollah en direction du nord d'Israël. 2 autres personnes ont été légèrement blessées par des éclats d'obus. Selon le Magen David Adom, la victime, grièvement atteinte, a succombé sur place à de multiples blessures. Nouriel Dovin était originaire de Bnei Yehuda dans le Negev. Elle vivait depuis quelques années dans le Moshav de Margaliot. Et un peu plus tard, hier soir, dans le centre du pays, à Bnei Brak, près de Tel Aviv, 9 personnes ont été blessées après des frappes de sous-munitions iraniennes. Un homme de 23 ans est dans un état modéré après avoir été touché par des éclats de missiles. 8 autres personnes, dont 6 enfants, sont légèrement blessées, atteintes par des fragments de bombes. D'importants dégâts matériels sont par ailleurs à déplorer sur plusieurs immeubles résidentiels de la ville. Au cours de la nuit, les sirènes d'alerte ont également retenti dans la région d'Eilat et le centre du pays en raison de tirs de missiles iraniens. Le nord a également été visé par des tirs en provenance du Liban. Et tôt ce matin, c'est la zone du Negev, les régions de la Mer Morte, de Dimona et de Beersheva qui ont été visées par un tir iranien. Le missile a été intercepté. Aucun blessé n'est à déplorer, pour l'instant en tout cas. Depuis le début de la guerre avec l'Iran, plus de 5000 personnes ont été blessées, selon le ministère israélien de la Santé. Sur le terrain, l'opération militaire israélienne Rugissement du Lion se poursuit à un rythme soutenu. L'armée de l'air israélienne a mené dans la nuit une nouvelle vague de frappes contre des cibles du régime iranien à Téhéran. Ces frappes aériennes ont visé des sites du régime iranien, selon Tsahal. Hier soir, l'aviation israélienne a bombardé une installation majeure de production d'explosifs dans la région d'Ispahan. Selon Tsahal, ce site, qui avait déjà été visé en 2025, avait été remis en service récemment. Au sud Liban, plusieurs terroristes du Hezbollah ont été éliminés lors d'opérations terrestres en cours dans le sud du Liban. C'est ce qu'indique Tsahal ce matin. Un dépôt d'armes du mouvement terroriste chiite a été détruit par des troupes de la 7e brigade blindée avant que plusieurs terroristes ne prennent la fuite et soient éliminés par des frappes aériennes. Par ailleurs, des soldats de la brigade Golani ont éliminé un terroriste armé d'un lance-roquettes et d'un fusil d'assaut qui s'approchait de leur zone d'opération. L'administration Trump a informé Israël à l'avance de son plan en 15 points visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran. C'est ce que rapporte la chaîne de télévision israélienne N12. Plusieurs médias américains mais aussi israéliens indiquent que le texte aurait été transmis à Téhéran par l'intermédiaire du Pakistan. Selon la chaîne 12, les États-Unis proposent un cessez-le-feu d'un mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leur demande. 5 de ces points concerneraient le programme nucléaire iranien. D'autres imposeraient l'abandon du soutien aux alliés de l'Iran dans la région, comme le Hezbollah ou le Hamas. Un autre point insiste pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime. En contrepartie, l'Iran obtiendrait une levée des sanctions internationales à son encontre et un soutien pour son programme nucléaire civil. Et l'Iran a justement affirmé que les navires non hostiles pouvaient désormais bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétentes, selon l'Organisation maritime internationale. Hier soir, Donald Trump s'est montré optimiste, assurant une nouvelle fois que des pourparlers étaient en cours avec l'Iran. S'exprimant depuis la Maison-Blanche, le président américain a indiqué être dans des pourparlers avec les bonnes personnes. Il a estimé que l'Iran va conclure un accord avec les États-Unis, ce sont ses mots. « Vous n'imaginez pas à quel point ils veulent faire un accord, nous verrons bien ce qui se passe », a ajouté le chef de la Maison-Blanche. Et parallèlement à ces discussions qui sont en cours donc avec l'Iran, Washington affirme que les opérations américaines contre l'Iran se poursuivent sans relâche. La Maison-Blanche a confirmé hier soir dans un communiqué que la diplomatie était explorée, tout en soulignant que les objectifs militaires restaient inchangés tels qu'ils ont été définis par le commandant en chef et le Pentagone. Les forces américaines indiquent avoir détruit plus de 9000 cibles militaires en Iran. Ces destructions ont réduit considérablement la capacité de combat du régime iranien, selon le CENTCOM, le commandement central américain pour le Moyen-Orient. Et puis, le Pentagone pourrait envoyer 3000 parachutistes vers le Moyen-Orient. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias américains. Ces soldats pourraient être dépêchés vers la région pour soutenir les opérations militaires en cours contre l'Iran. Selon le Wall Street Journal, l'ordre de déployer une brigade de combat de la prestigieuse 82e division aéroportée devrait tomber dans les prochaines heures. Cette unité appartient à la principale force de réaction rapide de l'armée de terre américaine. Et Israël suit bien sûr de très près l'évolution des positions américaines. Le porte-parole de Tsahal, le général Effie Defrin, a tenu un point de presse télévisé hier soir. Il a affirmé qu'Israël continuait d'agir et de frapper en Iran et au Liban selon un plan inchangé, quelles que soient les éventuelles discussions en cours en vue d'un accord pour mettre fin aux hostilités. Nous agissons et nous continuerons d'agir. Nous agissons en ce moment même pour approfondir les frappes et éliminer les menaces existentielles. Et nous frappons à la fois en Iran et au Liban, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron appelle lui à une reprise sincère du dialogue entre les parties après s'être entretenu hier soir par téléphone avec le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Sur le réseau social X, le président français dit avoir assuré son homologue israélien de la pleine solidarité de la France face aux attaques de l'Iran et du Hezbollah. Ces attaques doivent cesser immédiatement, a-t-il dit. Toujours sur X, Emmanuel Macron a appelé l'Iran à s'engager de bonne foi dans des négociations. Et dans ce contexte, Marco Rubio est attendu ce vendredi en France pour une réunion du G7 dont la direction est actuellement assurée par Paris. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera ses homologues pour discuter de la situation au Moyen-Orient et de la guerre en Iran, a annoncé le département d'État. Au Royaume-Uni, le roi Charles III a accepté de devenir le parrain du Community Security Trust, l'une des principales organisations de sécurité de la communauté juive dans le pays. Une annonce qui intervient quelques jours après un incendie criminel qui a visé 4 ambulances d'une organisation juive dans le quartier juif de Golders Green à Londres. En France à présent, une peine de 18 ans de réclusion criminelle a été requise hier au procès pour viol de Tariq Ramadan. L'islamologue suisse était jugé par défaut et à huis clos par la Cour criminelle départementale de Paris pour des viols sur 3 femmes. Le parquet général a également demandé un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé qui ne s'est pas présenté à la justice française depuis l'ouverture de son procès, ainsi qu'une interdiction définitive du territoire français une fois sa peine purgée. Et enfin, les obsèques de Lionel Jospin, décédé dimanche à l'âge de 88 ans, se dérouleront demain à 14h30 au cimetière du Montparnasse à Paris. Elles seront ouvertes au public, a indiqué la famille de l'ancien Premier ministre socialiste. L'hommage national annoncé par Emmanuel Macron aura lieu juste avant 11h aux Invalides, précise de son côté l'Élysée. Vous écoutez RCJ, il est 8h10. Restez avec nous dans un instant. Nous revenons sur les derniers développements de l'actualité en Israël en compagnie de Julien Balloul, l'un de nos correspondants sur place. À tout de suite. RCJ.
En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne Latet, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. Latet et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU La tête. Faites un don dès maintenant sur israel.fsju.org.
Bain et déco, parce que votre intérieur mérite l'excellence. Salle de bain d'exception, cuisine et dressing sur mesure, de la conception en passant par la rénovation complète de votre appartement. Nous sélectionnons et représentons les plus grandes marques haut de gamme et nos artisans qualifiés subliment chaque détail avec exigence, précision et élégance. Découvrez nos showrooms spacieux à Bastille, Saint-Germain et Boulogne et notre toute nouvelle adresse d'exception de 450 m² au 9 avenue Victor Hugo, Paris 16e. Prenez rendez-vous sur bainetdeco.fr. Bain et déco, l'art de sublimer votre intérieur.
RCJ 8h11, la suite de cette matinale info en direct jusqu'à 8h30. Nous partons tout de suite en Israël, plus précisément à Tel Aviv, où vous vous trouvez, Julien Balloul. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants sur place en Israël. Vous suivez pour nous l'actualité. Les vacances scolaires de Pessah ont officiellement commencé hier en Israël. Des vacances au goût amer, hein, puisque les écoles ont en réalité fermé dès le 28 février, le jour où a débuté l'opération Rugissement du Lion. Julien Balloul, comment les familles se préparent-elles à vivre cette période de fête avec leurs enfants ?
Ah oui, c'est vrai que c'est une période assez compliquée, hein. Vous l'avez dit, les écoles ont fermé depuis le début de la guerre, sauf dans certaines zones, ils ont commencé à réouvrir un tout petit peu les écoles pour les enfants qui ont des difficultés particulières, notamment les handicapés, mais vraiment, ça concerne très peu d'endroits. Donc les familles ont un petit peu, si vous voulez, une sorte de... J'allais dire de flashback du premier confinement du corona, parce que ça avait commencé pareil en mars 2020, donc au printemps, juste avant Pessah. Et déjà à l'époque, ils avaient, je me souviens, le ministère de l'Éducation avait dit, bon, bah, on avance les vacances de Pessah de 3 semaines, quoi. Là, les enfants ont eu école par Zoom, avec plus ou moins de succès pendant cette période. Moi, au début, j'étais un peu critique, hein, de ces Zooms et tout ça, mais finalement, il y a quand même une importance. Ça permet aux enfants de garder un lien avec leur classe. Moi, j'ai assisté à cette scène un peu émouvante en début de semaine où une de mes filles a eu un Zoom avec son enseignant qu'elle n'a pas vu depuis des semaines et qui lui-même ne s'est pas connecté au Zoom depuis le début parce que il est en Milouim. Et il s'est connecté en uniforme depuis sa base pour voir ses élèves une fois avant Pessah et leur dire Chag Sameach, donc c'était très émouvant. Et là, ces vacances de Pessah, il faut comprendre que les Israéliens partent beaucoup en vacances à l'étranger pendant Pessah parce que c'est les congés scolaires, et beaucoup de familles avaient pris des billets d'avion pensant notamment que la guerre était terminée, hein, puisqu'on était en cessez-le-feu depuis octobre. Certains avaient pris des billets avec des compagnies israéliennes, d'autres avec des compagnies étrangères. Mais là, donc on le rappelle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune compagnie étrangère qui a atterri en Israël. Les vols des compagnies israéliennes sont extrêmement limités, hein, puisque même ça a été encore aggravé en début de semaine, avec à peine un vol par heure qui a le droit de décoller avec 50 passagers. Donc autant dire que voilà, rien. Il y a certaines compagnies israéliennes, qui notamment Arkia, qui ont mis un projet assez ambitieux et assez courageux, je dois dire, c'est de faire partir des vols depuis Aqaba. Donc Aqaba, c'est en Jordanie, à côté de Eilat. Mais j'ai moi-même des proches qui le font, et donc ça veut dire il faut aller jusqu'à Eilat. J'ai un ami qui l'a fait hier. Il a fait 5 heures de bus. Il a eu une sirène d'alerte à l'arrivée d'Eilat, dans plein désert. Il a dû se mettre à côté donc de la route, donc c'est compliqué. Et puis dormir à Eilat, puis passer la frontière jordanienne. Ils veulent faire d'ailleurs ce matin. Et ensuite, de l'autre côté, Arkia récupère les passagers et les emmène jusqu'à l'aéroport d'Aqaba dans un vol charter pour les faire partir en vacances. Ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est pas donné à tout le monde, mais certains évidemment veulent le faire parce qu'ils veulent respirer, les familles veulent simplement un petit peu d'air. Et ce que je vois, c'est que alors au début, c'est par exemple ces options de Aqaba, Taba en Égypte, etc, c'est inenvisageable pour les Israéliens, et là, étant donné qu'on se rapproche bientôt de 4 semaines de guerre et qu'on n'en voit pas le bout, Certains veulent absolument offrir à leurs enfants quelques jours de pause, de respiration, surtout ceux qui vivent dans la région de Tel Aviv. Je vous rappelle qu'on est à plus de 130 alertes à Tel Aviv. Ça tombe pratiquement tous les jours. C'est tombé ces derniers jours au Shuka Carmel, sur la place Abima. C'est tombé pas loin de chez moi à plusieurs reprises. Donc certains sont prêts maintenant à prendre le risque d'aller jusqu'en Jordanie pour prendre un avion et pour tenter de faire des vacances quelques jours, avec cette grande question de comment rentrer derrière, parce que les vols n'auront pas forcément repris. Donc c'est un peu ça, un peu particulier qui s'ouvre.
On va terminer cette correspondance d'Israël en musique, hein, comme à l'accoutumée avec vous, Julien Balloul, avec de la musique et une note d'espoir également. Vous avez choisi une chanson qui est sortie au tout début de la guerre, « Viens, va vers la lumière ». De quoi parle-t-elle ?
Oui, absolument. Elle est écrite par Eli Butner et Yuval Dayan, qui sont des très belles plumes. Alors, en fait, ils avaient même écrit cette chanson avant la guerre actuelle. Alors, je parle avant la guerre contre l'Iran. Et puis, voilà, l'actualité a bousculé les choses. Elle a pris une autre tonalité. Ils ont même filmé le clip dans un parking souterrain qui sert de miklat, hein, qui sert d'abri en plein Tel Aviv. Donc, ça a encore plus pris une tournure particulière. Je vous propose qu'on écoute ces paroles. Et on écoute cette chanson et je vous le traduis juste après. Il dit, on convient, c'est une chanson extrêmement positive qui donne un peu d'espoir dans cette situation et qui donne aussi du baume au cœur. On écoute. Voilà, vous avez compris, ce matin, j'avais envie de donner un petit peu de baume au cœur et pas d'être sur une chanson triste et de guerre. Elle dit, explique-moi, raconte-moi tout ce que tu as vécu, toutes les crises, toutes les difficultés que tu as eues, ces cicatrices les plus profondes. Assis-toi, je ne peux pas sans toi. Je trouverai tout dans tes yeux, même ce refrain qui a été perdu. Et le refrain, justement, dit, viens vers la lumière, viens près de moi, vers le silence et le bonté, vers le cœur qui reste toute la nuit. J'irai jusqu'au bout du monde et avec toi, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la mer. Elle parle de l'horizon, évidemment. Les étoiles éclairent au-dessus de nous. Je t'attends. Donne-moi la main avec moi et nous j'irai jusqu'au bout avec toi. Viens vers la lumière. Voilà, c'est une chanson, encore une fois, qui, je vous le dis, a été écrite juste avant la guerre, mais qui, dans le contexte actuel, prend une tournure différente et qui... Voilà, qui donne un petit peu de baume au cœur depuis le matin, et pour continuer cette période un peu difficile.
Merci Julien Balloul pour cette correspondance en direct d'Israël et cette note d'espoir. On vous retrouve bien sûr mercredi prochain dans cette édition RCJ, 8h18. Restez avec nous dans un instant, nous continuons à parler d'Israël et de cette guerre qui sommet la population aux tirs de missiles et de roquettes en provenance d'Iran et du Liban. La franco-israélienne experte en économie Yael Ifra sera en direct avec nous depuis Jérusalem. À tout de suite. RCJ.
Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banques du sang. Sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face aux missiles, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Médecin francophone, vous pensez exercer en Israël? Ne manquez pas le MEDEX France le 3 mai 2026 à Paris. Au programme, dépôt de dossier pour la licence médicale israélienne, notaire israélien et rencontre avec des médecins déjà installés. Même si votre alia n'est pas pour tout de suite, venez vous informer. Inscription obligatoire, imap.org.il. MEDEX France, le 3 mai à Paris.
Sur RCJ, nous sommes en chambre jusqu'à 8h30 en direct pour la seconde partie de cette matinale info. Comment vit-on en Israël sous la menace des tirs de missiles iraniens et de roquettes du Hezbollah en cette quatrième semaine de guerre avec la République islamique d'Iran? C'est la question que nous posons tout de suite à Yael Ifra. Bonjour.
Boker Tov.
Merci d'être avec nous depuis Jérusalem où vous vivez depuis 10 ans. Vous avez été conseillère parlementaire à la Knesset et vous êtes spécialiste des questions économiques. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui au sein de la population israélienne? Y a-t-il de la peur, de l'inquiétude, de la certitude ou malgré tout une forme de confiance et d'espoir dans l'avenir?
Je dirais que le sentiment qui va prévaloir en ce moment en Israël, c'est plutôt la résignation. Même si le soutien pour la guerre est encore extrêmement fort et a raison, la plus grande partie de la population estime que cette guerre est juste. Ce n'est pas pour autant que la population civile en Israël ne subit pas une épreuve assez difficile à supporter. On attaque donc, comme vous l'avez dit, la quatrième semaine d'une guerre qui jette les populations au quotidien dans les abris ou dans les lieux protégés quand on peut les trouver. Hier encore, la preuve en a été par la mort d'une jeune femme de 27 ans à Kiryat Shmona qui était en train de descendre de sa voiture pour pouvoir entrer dans un espace protégé et qui a été tuée par une roquette. On est à l'abri nulle part, même si les autorités, en particulier la défense passive, le commandement du front arrière, ne cessent de répéter que les gens qui se trouvent dans un espace protégé ne sont jamais atteints. Seulement voilà, quand on a rouvert le marché, l'économie, qu'on a demandé aux parents de retourner au travail en laissant leurs enfants à la maison, hein, puisque le système éducatif n'a jamais rouvert et on est rentré en vacances de Pâques de Pessah qui dure 2 semaines aujourd'hui, eh bien, il y a les trajets. Voilà, on est dans la rue, il n'y a pas des abris sur les boulevards, on est d'un endroit à un autre et il faut rappeler que 3 millions d'Israéliens vivent dans des logements dans lesquels aucune défense, aucun abri, aucune chambre forte n'est disponible.
Vous êtes, Yael Ifra, je l'ai dit, une spécialiste de la consommation. Vous avez d'ailleurs lancé une application digitale, Caspeno, une sorte de UK israélien. Que pouvez-vous nous dire en cette période de guerre sur le coût de la vie et sur le niveau des prix? Est-il fortement impacté par le conflit?
Alors, en fait, en Israël, c'est très simple. Hein. Quand ça va bien, les prix augmentent. Quand ça va pas, les prix augmentent. Quand ça va encore moins bien, les prix augmentent. C'est ce qu'on est en train de vivre en Israël. On l'a déjà vécu au début de la guerre de Gaza, avec des augmentations perpétuelles de prix de biens de consommation, alors même que le shekel est une monnaie très très forte, très élevée. Les basiques de l'économie sont au beau fixe. Eh bien, on a eu un système, entre guillemets, de profiteurs de guerre, hein, puisque tous les supermarchés, toutes les grandes marques n'ont cessé d'augmenter les prix, profitant du fait eh bien, que les Israéliens sont bloqués à la maison, qu'ils ne peuvent pas bouger puisqu'il y a très peu de vols, qu'ils font leurs vacances en Israël. On ne peut pas dire que la solidarité fameuse dont on parle sans cesse se soit exercée de ce point de vue-là. Israël est un pays de plus en plus cher, il faut le dire, et en effet, les Israéliens sont écrasés par ce fardeau. Mais Laurence, voilà, on est tout le temps en guerre. Donc du coup, on parle de la guerre plutôt que de parler du coût de la vie. Et si on n'était pas en guerre, ce qu'on espère qu'il va bientôt se terminer, eh bien, croyez-moi, pour les prochaines élections, le coût de la vie sera au centre des préoccupations, avec évidemment la sécurité. Mais ce n'est pas pour ça que le taux de pauvreté n'augmente pas. Je sais que vous recevez régulièrement Gilles Darmon de l'organisation La Tête. Il a dû vous donner les chiffres.
Partenaire
voilà,
de la FSJ.
C'est extrêmement compliqué.
Quelles sont pour Israël les conséquences économiques de cette nouvelle guerre qui intervient après plus de 2 ans de conflit à Gaza et alors qu'une partie des jeunes et des hommes sont mobilisés, combattent au front?
Alors, Laurence, c'est toujours la même chose en Israël. Il y a la micro et il y a la macro. Donc, au niveau de la macroéconomie, c'est-à-dire les grandes masses budgétaires, l'économie au sens large, eh bien, même si le pays est fortement endetté, que cette guerre a déjà coûté pratiquement 200 milliards de shekels, que le gouvernement est en train de passer un budget avec un déficit à 5%, en Israël, tout le monde est au bord de l'évanouissement quand on parle d'un taux d'endettement, c'est-à-dire le PIB, la dette par rapport au PIB, 80%, alors que la France a dépassé depuis très longtemps les 100%. Donc, on est quand même sur des fondamentaux très, très bons. Il n'y a pas de chômage. Les gens travaillent très, très dur. Ils ont une espérance de vie. Ils sont heureux. Donc, tout ça, c'est très important. Sauf qu'au niveau de la micro, c'est-à-dire des familles, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que oui, d'une part, il y a les réservistes. Alors, comme vous le dites, des centaines de milliers de personnes qui ont fait des fois 200, 300, 400 jours de réserve, donc un poids énorme à supporter pour leur famille, pour leurs femmes, pour les enfants, donc un coût économique mais aussi un coût psychologique. Cela étant, ces réservistes sont plutôt correctement payés la plupart du temps et donc ils ont absorbé une grande partie des dépenses militaires, donc cela a poussé la consommation. D'un autre côté, il y a aussi toutes les petites entreprises qui se sont cassées la figure parce que justement, quand vous êtes réserviste et que vous venez d'ouvrir, je ne sais pas moi, une pizzeria ou une société de graphisme et que vous n'êtes pas là pendant 3 ou 4 mois, au bout d'un moment, les clients s'en vont avec la meilleure volonté du monde. Donc, beaucoup de problèmes au niveau des petites entreprises. Et je termine en disant que ce qui se porte très, très bien et qui profile un nouvel Israël, eh bien, c'est évidemment la défense tech. En Israël, la bourse est au beau fixe. Les investisseurs croient dans le pays puisque nous avons développé en temps de guerre des armes remarquables qui sont testées sur le champ de bataille, ce que tout le monde n'a pas, entre guillemets, je le dis, la chance de pouvoir faire. Et donc, finalement, c'est assez mitigé et assez paradoxal. D'une part, donc, on pense que la sortie de guerre sera probablement excellente pour les grandes entreprises israéliennes et pour la high-tech et pour la défense. Mais d'autre part, à cause du déficit, à cause des impôts qui vont augmenter, à cause des difficultés des familles, les Israéliens, les familles au quotidien et du coup de la vie, évidemment, se préparent des lendemains qui risquent d'être un peu plus compliqués.
Merci infiniment Yael Ifra pour cet éclairage et ce témoignage. Je rappelle que vous nous parlez en direct depuis Jérusalem. Vous êtes spécialiste d'économie. Vous écoutez RCJ, il est 8h26. C'est la fin de cette matinale info. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur RCJ, c'est à 11h pour le flash, puis à midi pour l'édition complète de la mi-journée avec à 12h20 Yonatan Arfi, le président du CRIF, qui sera l'invité de ce journal. Notez également qu'à 11h05, vous retrouverez Sandrine Seban pour Échiquier 21, le magazine de l'intelligence économique avec Éric Delbecq et Philippe Clerc. Excellente journée à tous à l'écoute de RCJ.